BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club Média RH qui ouvre ses portes. On est là pour une heure, on est surtout là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Ça y est, l'année commence bien, il y a des postes à pourvoir, des belles opportunités d'emploi. Il suffit d'être à l'écoute. Vous retrouverez tout sur les sites, bien sûr, mais surtout, notez bien, des postes à pourvoir. Et dans un secteur qui cartonne, nous sommes ravis de vous présenter le leader français de la garde d'enfants à domicile, Kangourou Kids. Son siège est à Rennes, il est présent partout en France, ça se développe à mort. Vous avez, bien sûr, vous faites peut-être appel à des nounous. Eh bien, lui, il recrute des nounous qui vont peut-être être chez vous. Et c'est un vrai job avec des vrais diplômes, ils les forment. Et si vous connaissez quelqu'un qui cherche un boulot, le voilà. Alors, en première partie, toujours Claude Tempé. Et là, c'est Eric Persin, bien sûr, le patron de Kangourou Kids qui est là. Claude Tempé, qui lui est vice-président du groupe Freelance, est avec nous pour une enquête très intéressante. Le travail en freelance qui gagne du terrain, un chiffre, 77% des cadres en ont une bonne opinion. Il y a d'autres chiffres qui viendront. C'est une enquête très intéressante, je le répète. En deuxième partie, toujours à propos d'une enquête, eh bien c'est le résultat cette fois d'une étude menée par Cleaver Connect, portant sur la discrimination dans l'accès à l'emploi. On apprend des choses étonnantes et c'est une enquête nationale sur le thème de la discrimination, à la fois sur l'origine et le lieu de travail. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir Jérôme Pascal, qui est le patron et fondateur de Oiseau. Oiseau, j'aime l'oiseau, mais ça s'écrit différemment, vous allez comprendre. Il y a un lien, enfin bref. Tout ça, c'est pour la fin de l'émission, mais on commence toujours, vous savez, le club Média RH, on ouvre nos portes avec, non pas comme invité, mais comme première info, les news RH, et c'est Marie Valogne, la célèbre Marie Valogne, maintenant, bonjour.
Bonjour.
Ici Cogne. Salut Marie, à toi.
BFM Business, le club Média RH, les news RH.
Et plus précisément, ma chère Marie, la première info porte sur l'emploi des seniors. La réforme des retraites prévoit que les Français travaillent plus longtemps, on en est là. Le gouvernement réfléchit, vous le savez, sur la façon d'améliorer leur place sur le marché du travail.
Et oui, un rapport sur l'emploi des seniors a été remis au gouvernement cette semaine. Une quarantaine de propositions sont sur la table. Mieux prévenir l'usure professionnelle, mieux former, mieux aménager les fins de carrière pour inciter les Français à travailler plus longtemps. Les pistes seront au cœur des discussions avec les partenaires sociaux. Certaines pourraient être mises en œuvre dans le cadre de la réforme des retraites.
Alors c'est vrai qu'il y en a qui veulent partir tôt à la retraite, puis il y en a d'autres, regardez-moi, avec mes cheveux blancs, qui ont toujours envie de bosser. Alors, il ne faut pas m'empêcher de travailler. C'est un autre sujet, mais je ne suis pas le seul. En tout cas, les patrons français, dites-vous, ma chère Marie, sont optimistes pour 2020.
Et oui, malgré la grève et les mouvements sociaux, le moral des patrons des entreprises françaises est au beau fixe. D'après le baromètre Eurogroup Consulting pour BFM Business, 7 dirigeants sur 10 sont confiants sur l'évolution de leur activité cette année. Et leur optimisme devrait se traduire par des embauches. Un tiers d'entre eux s'apprête à recruter en 2020. Bruxelles relance l'idée d'un salaire minimum européen. L'objectif est de lutter contre le dumping social. La Commission va consulter les partenaires sociaux avant de faire des propositions. L'idée ne sera pas d'obliger les pays à introduire un salaire minimum uniforme, mais de fixer un cadre légal pour les travailleurs.
Et on termine toujours avec votre fameux Save the Date, Marie Valogne. Le Save the Date qui est une sélection, je dis bien une sélection, des salons, des forums, des lieux où il faut être sur l'emploi. Et c'est pour la semaine à venir. On commence avec un rendez-vous dans le sud, je crois.
Hein, et oui, direction la Seine-sur-Mer, le 28 janvier. La tournée de la Place de l'Emploi et de la Formation fait étape Place Saint-Jean de 13h à 17h. Pôle Emploi et ses partenaires vous proposeront différentes animations autour de l'emploi. Des job dating, simulation d'entretien ou encore des conseils sur la formation. Rendez-vous à Paris pour le salon de l'étudiant. Il se tiendra à Porte de Versailles du 31 janvier au 2 février. De nombreux sujets sur l'orientation seront abordés lors de conférences. Quelles études pour quel profil? Pourquoi aller étudier à Montréal? Ou encore quels débouchés pour les ressources humaines? Les acteurs de la formation seront là pour vous répondre. Et puis on reste à Paris, hein, pour le salon des entrepreneurs. Ce sera les 5 et 6 février au Palais des Congrès. délai. 2 jours pour accélérer vos projets, que vous soyez indépendant, start-upper ou futur dirigeant d'entreprise.
Voilà, que des bonnes nouvelles et des opportunités qui vous sont offertes dans différents salons. Et merci de les avoir soulignées. Merci Marie, vous reviendrez la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Mais on va commencer, nous, de notre côté, tout de suite par l'entreprise qui recrute. C'est Kangourou Kids. C'est parti.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Trouver un emploi qui vous convienne, eh bien, c'est pas forcément évident, qui corresponde à vos attentes, mais vous pouvez démarrer d'une certaine manière dans un poste, vous allez voir, et évoluer, et ça peut vous donner des idées, peut-être, de créer votre propre entreprise, pourquoi pas, à travers la France. Et je peux vous assurer que des postes, il y en a chez Kangourou Kids. Bonjour Eric Persin.
Bonjour Alexandre.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur heureux, j'ai envie de dire, et quelle bonne idée d'avoir concrétisé ce projet en 2010, de créer une entreprise de, comment dire, de garde d'enfants, c'est ça, hein?
C'est ça.
Précisément, d'intervenants de garde d'enfants. Alors, on va y venir, on va présenter la société. 750 postes sont à pourvoir chez Kangourou Kids, mais au préalable, je donne... Et pardon, vous savez qu'on n'a pas le droit d'être, et c'est normal d'être sexiste, de dire ce sont des postes pour des hommes, pour des jeunes, pour des vieux, pour des femmes. Mais là, on est dans une situation particulière, parce qu'en fait, là c'est clair, on en parlera tout à l'heure, ce sont des postes qui sont a priori pour des femmes, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Eric Persin, donc vous faites de la garde d'enfants. Mmh. On va commencer depuis le début. Date de création, 2010. Mmh. Vous êtes à Rennes. Racontez-nous l'histoire.
Donc 2010, j'ai eu une première aventure de créateur d'entreprise au précédent, où on avait monté déjà un petit réseau d'agences de garde d'enfants. Oui. Et 2010, avec d'autres associés, on monte Kangourou Kids, qui est un réseau qui a pour ambition de travailler beaucoup sur la qualité de recrutement, la qualité de management, de manière à proposer des prestations, non pas haut de gamme, mais des prestations qui correspondent exactement à ce qu'attendent des parents.
Alors, vous étiez pas expert dans ce domaine? Si, quelque part un peu quand même, vous aviez des compétences.
On a déjà 7-8 ans d'expérience sur le sujet.
Oui, alors ça va, mais dans le développement au travers de la France, ça a été la grande explosion. Donc c'est en 2010.
En 2010, on crée le réseau avec...
Le réseau, voilà.
Voilà, avec 11 agences. Aujourd'hui, on est arrivé à 117 agences.
Ah, c'est formidable.
17 crèches, puisqu'effectivement...
Dans toute la France.
On s'est un peu diversifié. Donc, on est présent pratiquement dans toute la France. Ouais. Hein, on a quelques petits trous dans la raquette qu'on va certainement boucher dans les mois qui viennent.
Ben, c'est un appel qu'on pourra lancer, d'ailleurs.
Bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, on a entre 7 900 et 8 000 salariés. Mm-hmm. Et on va recruter, dans les 6 mois qui viennent, environ 750 collaborateurs, dont, et c'est, on va faire un zoom dessus, 250 alternants, puisqu'effectivement, devant la difficulté de recrutement, on a monté un centre de formation qui s'appelle Kiwi Institute. Et ce centre permet à quelqu'un qui n'est pas professionnalisé dans ce secteur, qui a déjà d'expérience de garde d'enfants, mais qui n'a pas de titre, pas de diplôme, de suivre pendant un an une formation le matin, formation théorique pratique avec des ateliers, et l'après-midi, elle travaille dans des familles pour pouvoir atteindre un niveau de diplôme qui s'appelle le CAP. Assistant oui. éducatif.
Alors, c'est
enfant.
Là où je voulais en venir, Eric Persin. Il faut pas croire que, bon, la garde d'enfants, la grand-mère, elle passe pas un diplôme pour garder ses petits-enfants. Mais aujourd'hui, c'est réglementé dans le bon sens du terme. C'est un vrai métier. La garde d'enfants à domicile, ça se concrétise par un diplôme reconnu. C'est
oui,
ça.
Bien sûr. Ce diplôme permettra d'ailleurs de travailler dans d'autres domaines, dans des crèches, dans des écoles ouais. maternelles, avec, effectivement, on le voit bien avec la réforme du diplôme qui a eu l'année dernière, avec une vision vraiment éducative et pas simplement de surveillance et de bienveillance. Ça, c'était la façon de gérer la petite enfance par le passé. On faisait de la sécurité, on faisait de l'hygiène. Et là, maintenant, il y a un côté éducatif important dans l'action de garde d'enfants.
Autre mot que vous avez prononcé, c'est en CDI.
Bien sûr.
Tous les gens qui travaillent chez vous, alors on va entrer dans le détail. Là aussi, la garde d'enfants, ça commence à quelle heure? En général, la moyenne, quelle est l'organisation de la vie? Et ce sont des postes en CDI, mais d'abord l'organisation.
On répond à une offre d'une demande de client.
Ah oui, toujours. Donc vous adaptez au marché.
La demande majoritaire, c'est effectivement souvent un couple biactif, monsieur et madame travail, oui. et ils ont besoin de pallier...
Un joli titre de film, monsieur et madame travail, oui.
Ils ont besoin de pallier aux difficultés de la vie quotidienne, c'est-à-dire de faire cohabiter leur vie professionnelle et leur vie familiale. Ouais, ouais. Et donc, on va chercher les enfants, par exemple, à 16h30 à l'école, ouais. le plus petit à la crèche, on ramène tout le monde à la maison et on s'occupe des enfants.
Donc, alors, parlons des âges, au passage.
En général, de 0 à 10, 11 ans, parce qu'à 10, 11 ans,
un enfant... Ah oui, ça peut être un bébé, quoi.
Oui, oui, bien sûr, nourrisson. Ça peut être des bébés ou des nourrissons. Mais sinon, ça peut être 10, 11 ans, l'âge auquel les enfants peuvent aller à l'école et revenir tout seuls.
D'accord. Alors, ces hommes et ces femmes, alors je disais, soyons, on va parler du CDI bien sûr, parlons tout de suite du CDI, puis après on va reparler les hommes et les femmes. Le CDI, c'est une réalité, je
sais. Bien sûr.
Même si c'est en alternance.
Bien sûr.
Parce qu'on va parler de l'alternance.
Alors, la formation d'alternance en France a un cadre particulier, puisque la première année est ambivalente entre un CDI et un CDD.
Oui.
Mais effectivement, dans le cadre de ce contrat de formation, à la fin, la salariée peut soit décider de rester en CDI chez nous, soit de quitter l'entreprise, et c'est là où il y a la notion de CDD. Sur tous les autres postes, environ donc 7500-7600, ce sont des postes en CDI chez nous. Nous, on a besoin de gens qui s'engagent et qui s'engagent de manière pérenne au service des familles qui nous font confiance.
Alors, c'est un vrai métier, codifié, je le redis, qui conduit à... Je voudrais relever ce que vous avez dit, qui conduit à la possibilité pour ceux qui ont le diplôme, qui travaillent chez vous, à un moment donné, bah, peut-être d'être en CDI chez vous, mais aussi d'aller vers les crèches, vers autre chose.
Alors, la garde d'enfants telle qu'on la pratique, nous, chez Kangourou Kids, qui est une garde d'enfants à domicile, au domicile des parents, fait qu'on a un tunnel, entre guillemets, parce que la plupart des enfants, à partir de 3 ans, sont scolarisés. Donc j'ai un tunnel de 9h du matin à 16h30 dans lequel je n'ai pas de demande.
Pas de job pour vos collaborateurs.
À part pour les tout petits, évidemment, les enfants qui vont pas en crèche et qui seraient gardés à la maison. Mais c'est une minorité. Pour la majorité, donc je développe beaucoup d'emplois à temps partiel, soit tôt le matin, soit à partir de 16h30 jusqu'à 19h30, 20h, soit le samedi, soit le soir. Enfin, toutes les particularités d'emploi qui font que les structures collectives, crèches, garderies, ne sont pas ouvertes pour les salariés pendant un certain nombre
de... Alors, il faut que on me le dit dans l'oreillette, et Marie a raison, Marie Valogne, qui me le donne au passage, je me suis trompé, j'ai parlé de 250 postes à pourvoir. Ça, ce sont 250 postes de stagiaires en alternance, au total, c'est 1600 postes à pourvoir sur l'année, dans toute la France. Hommes, femmes, j'ai dit ça dans le sommaire. Alors, il y a un truc très particulier dans votre métier, ce sont des intervenantes, on a mis au féminin, de garde d'enfants, ça tombe bien qu'on nous le reprécise, parce qu'en fait, c'est pratiquement un des rares métiers où vous ne cherchez pas des hommes.
Alors,
pardon de dire ça, on n'a pas le droit.
Nous, on ne discrimine pas et on embauche des hommes, quelques-uns.
Bien sûr.
Mais en fait, deux axes pour répondre à cette question, c'est... Quand vous demandez à une maman de décrire la personne qui garde ses enfants, dans 9 cas sur 10, elle va décrire une femme. Spontanément, elle va féminiser son discours, elle va parler d'une femme.
Okay.
Et de la même manière, si je regarde mes candidatures, parce qu'on met des annonces qui sont indistinctes, et quand on regarde les candidatures, on a 95% de candidatures qui sont des...
C'est comme ça, voilà. Et c'est logique, et c'est sociétal, comme on dit.
Bien sûr.
C'est la société qui mène ce marché-là, et là, on peut pas nous accuser de discrimination, parce qu'on va parler de discrimination.
Mais je peux certifier que les quelques hommes qu'on embauche sont pas maltraités, ils sont rémunérés de la même manière que les femmes.
Puisque vous parlez de rémunération, est-ce qu'on peut donner la rémunération moyenne ?
Alors, ça commence au SMIC horaire. Après, on a une convention collective qu'on applique.
Ouais.
Donc, en fonction du volume horaire, on peut avoir des temps partiels qui représentent entre 400, 500, 600 euros par mois. Ça, c'est un gros volume. Et on a certaines, effectivement, de nos postes, entre 10 et 15 % de nos postes, qui sont à temps plein, avec à peu près le SMIC plus 15 %.
On imagine de l'extérieur que ce sont, a priori, des étudiantes, des gens, des femmes au foyer qui ont envie de gagner un peu d'argent. C'est pas ça.
Alors, contrainte du temps partiel fait qu'effectivement, on va chercher des gens qui postulent et qui ont besoin d'un temps partiel et pas d'un temps plein.
Voilà.
L'étudiante, évidemment, pour poursuivre ses études, a besoin d'un temps partiel. Mais on a, paradoxalement, on a découvert depuis plusieurs années, on en avait déjà parlé ensemble, les mamie-sitters, c'est-à-dire qu'en fait, on découvre qu'il existe, évidemment, sur le marché, des femmes qui ont entre 55 et 65 ou plus. On a une salariée à Rennes qui a 72 ans et qui ont besoin d'un complément de revenu.
Voilà,
pour leur retraite, et ils ont une retraite de 600-700 euros par mois, on voit bien que c'est très tendu.
Alors, on va y revenir parce qu'on a des informations à transmettre pour parler de votre société. On va les avoir à l'image. La fiche d'identité, la fameuse fiche d'identité sur votre société, sur Kangourou Kids. Kangourou Kids, on a compris le nom de la société. Hein, Kangourou, il y a la poche, voilà, c'est ça, etc. Date de création 2010.
2010.
7900 collaborateurs, c'est le bon chiffre.
Mais c'est
aujourd'hui
ça.
Au niveau national. Et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.
C'est ça.
Voilà, non, mais il faut dire que c'est un business rentable. Enfin, c'est un business qui...
Je ne me
permettrai pas de poser des questions indiscrètes, mais ça tourne, quoi, puis ça augmente, votre chiffre d'affaires augmente.
Non, c'est, en fait, pour gagner de l'argent sur ce business, pour être clair, et répondre à votre question, il faut être très organisé. Puisqu'effectivement, ce qui coûte de l'argent, c'est toutes les phases administratives, commerciales, etc. Et si on arrive à faire du volume, et pour faire du volume, il faut faire de la qualité. Si on fait de la qualité, on fait du volume. Si on fait du volume, on finit par gagner de l'argent. Mais il faut pas inverser les priorités.
Dernier point, entre guillemets, puisqu'on va continuer à en parler, mais il y a aujourd'hui, vous avez combien de 110, c'est ça ?
117 agences.
117 agences. Ouais. Et vous ouvrez en permanence des agences. Alors, est-ce que c'est ouvert à la franchise ou pas ?
Bien sûr. Alors, on a...
On profite, quoi. Parce que la franchise crée de l'emploi.
On a 15% d'agences qui sont en propre à Kangaroo Kids.
Oui.
Et on a le reste qui sont des franchisés.
Est-ce qu'il y a encore des places ? Est-ce que vous recherchez des
franchisés ? Oui, alors là, on cherche plutôt des cadres qui ont travaillé ou dans le commercial, ou dans l'administratif,
oui,
ou dans les RH. Et effectivement, ces cadres peuvent monter une entreprise qui va être affiliée chez nous pour pouvoir... bénéficier de notre savoir-faire,
bien
de notre
sûr,
image de marque,
sûr,
etc.
Et ça coûte cher, l'inscription ?
Oh, ça coûte. Ça me pose pas de problème. C'est 23 000 euros, c'est le droit d'entrée classique dans une franchise.
D'accord.
Mais ça comprend toute une formation, un accompagnement très fort. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on voit qu'on a très très peu de défaillances, nous, dans notre réseau. C'est-à-dire qu'on prend des franchisés, les 117, ils ont monté leur boîte, on les a aidés à se développer, plus ou moins.
Et ça tourne.
Et ça tourne.
Ils se développent et ils gagnent des sous.
Et on a très peu d'échecs.
C'est important. Parfait, c'est une très bonne nouvelle. Donc vous l'avez compris, vous restez avec nous, Éric Persin. Il y a aussi bien des jobs d'intervenants garde d'enfants à pourvoir. 1600 postes cette année dans toute la France, dont 250 par l'alternance garde d'enfants. Et puis, par ailleurs, la possibilité, pourquoi pas, de créer votre propre business et vous pouvez gagner votre vie, créer des emplois vraiment autour de vous. On en parlera tout à l'heure, on y reviendra. Mais ça touche à l'activité qui n'est pas, vous l'avez évoqué, qui n'est pas à 100% par rapport au temps pris. Eh bien, justement, ça tombe bien, ça me donne un lien avec l'invité suivant, puisque on va parler des freelance, c'est à peu près l'équivalent. Eh bien, une enquête a été menée par l'entreprise qui est notre invité, c'est la société, le groupe Freelance, c'est son nom, et vous allez apprendre des choses étonnantes. Voici la rubrique décryptage RH.
BFM Business. Le Club Média RH. Décryptage RH.
Bonjour Claude Tempé, comment allez-vous ?
Très bien, merci et vous ?
Merci d'être avec nous, très bien. Alors on est ravis, vous voyez, le lien était facile. Alors vous êtes vice-président du groupe Freelance. Un mot d'abord sur votre groupe. Freelance, comme son nom l'indique. Bon.
Exactement. Donc, en fait, freelance.com, qui est la société dont je suis vice-président, a pour vocation, comme son nom l'indique effectivement, de faire en sorte de permettre à des indépendants de travailler avec des sociétés et réciproquement. Et on offre toute une batterie de services qui vont permettre de fluidifier les relations entre ces deux mondes qui n'ont pas la même taille, ne sont pas forcément câblés pour fonctionner ensemble.
Oui, et le recrutement n'est pas un recrutement classique. On recrute
tout à fait.
Alors,
le recrutement, c'est une partie des offres qu'on propose, c'est qu'on aide les entreprises à trouver les bons indépendants pour eux et on aide les indépendants à trouver les bonnes missions pour eux.
On comprend.
C'est une partie de nos offres, mais on a plein d'autres offres qui vont au-delà de ça, puisque bien évidemment faire travailler des indépendants avec des entreprises, c'est plus large. On fait de la gestion pour eux, on fait de la sécurisation, on aide à l'international, on fait du portage, on fait plein de choses qui nous permettent d'avoir un panel d'offres qui répond vraiment à 360 degrés aux besoins de la rencontre de ces deux mondes.
Claude Tempé, votre groupe emploie combien de personnes ?
Alors aujourd'hui...
Vous avez des chiffres ?
Bien sûr, en fixe au sein du groupe...
Permanent, voilà.
Bien sûr, permanent. On est...
collaborateur de l'entreprise.
120 personnes.
D'accord, vous êtes le siège est à Paris ?
On a un siège à Paris, on a des agences en province et à l'international.
Le chiffre d'affaires, vous le donnez ou pas ?
On fait 240 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ah oui, c'est conséquent, ça devient conséquent.
Exactement.
On fait
travailler à peu près 5000 consultants au quotidien chez nos clients. Exactement.
Et vous existez depuis combien de temps ?
Alors la société est relativement ancienne, puisqu'en fait on existe depuis plus de 23 ans. Et c'est grâce à ça qu'on a attrapé le nom de domaine freelance.com que beaucoup nous envient, et notamment outre-Atlantique.
C'est une entreprise française.
C'est une entreprise française à capitaux 100% français, donc on peut être fier de ça. On est aujourd'hui un des leaders de ce marché-là, qui est un marché en pleine explosion, avec une vraie transformation du rapport au travail, notamment des jeunes. Et le freelancing explose complètement. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de cette transformation du marché du travail qu'on a lancé un baromètre avec l'IFOP.
Tout à fait,
et
on va en parler.
De mieux comprendre et de mieux interpréter les changements sociétaux qu'on observe pour essayer de répondre au mieux aux attentes du marché.
Je donnais dans le sommaire des chiffres, un chiffre fort, 77% des cadres, puisque c'est une étude, et on va en voir les résultats, on dit les camemberts qui suivent, 77%, ça c'est étonnant, des cadres estiment qu'ils ont une bonne opinion du travail en freelance. Alors, ça, on va énumérer les différents résultats de votre enquête. Le travail en freelance gagne du terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici les premiers résultats, je vous propose de les commenter. Je viens de le dire. 70,
alors, 70, ceci, 70, vous avez souligné ce chiffre, c'est un point important parce que c'est vraiment quelque chose de très fondamental dans cette étude. Ça traduit quelque chose de très important. Il y a toujours eu des freelances. Mais il y a une dizaine d'années de ça, c'était plutôt péjoratif et pas très bien vu quand on était freelance. Et les gens n'avaient pas spécialement une bonne champignon du freelancing. Le fait qu'aujourd'hui...
Vous appelez ça le freelancing?
Oui, au sens...
Non, non, mais allez-y, oui.
Le fait qu'aujourd'hui, 77% des cadres interrogés estiment qu'avoir une bonne opinion du freelancing et du statut de freelance montre et marque vraiment un changement sociétal profond du rapport au travail. Et aujourd'hui, il y a même une certaine fierté à pouvoir dire « je suis freelance » au sens où ça implique que vous avez un meilleur rapport vie privée-vie professionnelle, que vous pouvez choisir vos missions, que vous êtes suffisamment autonome et que vous avez suffisamment de valeur pour vivre de ça, etc.
Alors justement, tout ça rentre dans un mouvement sociétal, et on en parlait aussi avec Eric Persin, que l'on a noté déjà l'an dernier, c'est, vous avez raison, les hommes et femmes qui sont freelance n'ont plus honte d'en parler, de se positionner. Deuxièmement, l'alternance, ça cartonne. Et troisièmement, la possibilité de travailler autrement, de quitter le statut de salarié pour devenir entrepreneur et continuer à travailler dans la boîte, c'est en train d'exploser. Ça.
Complètement, complètement. Il y a vraiment...
Ça rentre dans ce mouvement-là.
Hein. Complètement.
Notamment dans la jeune génération, bien sûr.
Tout à fait. Bah, la jeune génération, effectivement, accélère ce mouvement et cette transformation. Il y a un autre chiffre relativement important, c'est que on voit que 35% des cadres qu'on avait interrogés envisagent de passer freelance potentiellement dans les mois, années à venir. Donc là aussi,
3 Français sur 10, c'était l'image qu'on avait. Hein.
Exactement.
Ils sont prêts, qui songent à quitter leur statut pour devenir freelance. Donc, alors, autre information que l'on a, c'est la deuxième image qui arrive, le deuxième camembert. Et là, c'est les atouts du statut de freelance. Alors ça, j'imagine que vous pouvez nous en parler. C'est votre job.
Il y en a plein. Le fait d'être freelance, ça amène beaucoup de choses. En fait, il y a aujourd'hui, encore une fois, et on n'arrête pas de répéter ces mots.
C'est l'enquête qui le détermine, ça, hein, encore une fois.
Oui, non, mais bien sûr, mais nous, on l'observe et ça ne fait que valider des choses qu'on observe depuis un grand nombre d'années. Les gens veulent pouvoir passer freelance parce qu'ils veulent pouvoir donner plus de sens à leur travail. Et ça a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est de pouvoir choisir son temps de travail.
D'accord, 25%.
Exactement. Donc, ils vont pouvoir déterminer leur temps de travail. Ils vont pouvoir faire le choix de leur mission, le choix de l'entreprise pour laquelle ils vont travailler. Ils vont pouvoir choisir les sujets sur lesquels ils vont travailler.
D'accord.
Et ils n'auront pas de patron. Ils seront eux-mêmes leur propre patron et décider de ce qu'ils feront. Et
oui, tout ça... 11% qui disent que c'est pour l'absence de hiérarchie.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien
ça n'empêche pas de faire un bon boulot.
Ah bah au contraire, même, parce que quand vous vivez de ce que vous produisez, vous êtes obligé de faire quelque chose de qualitatif, et ça se ressent beaucoup, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises sont de plus en plus ouvertes à travailler avec des freelances, notamment parce que ça amène de l'expertise, de la qualité et de la flexibilité pour les entreprises, bien évidemment.
Alors on continue, on a encore deux images à vous proposer, qui sont issues, je rappelle, d'une enquête IFOP, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Que vous avez menée auprès d'un panel représentatif, comme on dit dans le jargon. Troisième image, c'est, et puis j'aimerais avoir la réaction d'Éric Persin sur ce sujet, les nouvelles formes de travail. Hein, c'est ça en fait.
Oui.
On en parlait, les nouvelles formes de travail. Et là, on a, dites-vous, une personne sur deux, c'est ça le chiffre.
Oui.
Qui considère.
Mais en fait, ce mouvement sociétal, c'est-à-dire cette transformation du marché au travail et l'augmentation du nombre d'indépendants et des différents statuts au-delà du salariat classique, font que de plus en plus de gens veulent que le législateur mette en place des cadres qui permettent d'accompagner ce mouvement.
Oui.
Il y a des statuts qui apparaissent, notamment...
Ça n'existe pas encore.
Si, il y a des choses, bien sûr, qui ont été faites, et notamment il y a un statut qui s'appelle le portage salarial, et qui permet à un indépendant de travailler pour un client tout en étant salarié d'une société de portage, lui permettant de bénéficier du régime général, c'est-à-dire la sécurité sociale, la retraite et le chômage. Et donc, ça permet à tous ces gens qui veulent devenir indépendants, de minimiser leurs risques, notamment en étant protégés, au même titre qu'un salarié standard, par une couverture sociale complète.
Donc, Éric Persin, votre... Pardon.
Non, je vous en prie.
Excusez-moi, allez-y, finissez.
Non, je dis, le législateur tient compte de ces changements sociétaux et met en place des statuts qui accompagnent justement ces mouvements.
Donc on attend beaucoup de l'État là aussi. Éric Persin, vous qui êtes patron, et vous faites travailler des hommes, enfin, des femmes surtout, pour la garde d'enfants.
Alors nous en tant qu'employeur, on utilise le CDI, parce que ça correspond à une demande de nos salariés ou de nos candidats. Parce que ça représente pour eux une sécurité, etc. En revanche, quand on discute avec nos étudiants, on disait tout à l'heure qu'on embauche à peu près entre 55-60% d'étudiants, ça dépend des bassins d'emploi. On voit beaucoup qu'il y a une évolution et qu'aujourd'hui, l'étudiant, il ne voit pas son avenir forcément en tant que salarié dans une entreprise, mais peut-être en tant que travailleur indépendant. Et ça, d'une manière
assez large. Il y a un vrai changement. Et ça, vous l'avez noté depuis combien de temps ?
Avant, on avait l'impression qu'avec les étudiants en
école de commerce... Et quand vous dites avant, c'était il y a combien de temps, Éric Persin ?
Oh, c'est sur les 2-3 dernières années où on voit que ce mouvement plus. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais je l'avais lu dans une étude. Je crois que si on regarde les étudiants d'école de commerce, il y en a pratiquement un sur deux qui ne veut pas être salarié à la sortie et qui veut créer son emploi.
Ah non, mais c'est vrai que c'est un vrai mouvement de fond, quoi.
Ouais.
C'est une vague de fond puissante.
Et vous avez raison, le changement, enfin, on le voit clairement depuis 3-4 ans. 3-4-5 ans.
C'est ça.
C'est-à-dire que là, il y a vraiment un changement de paradigme, tant de la part des salariés que de la part des entreprises aussi qui acceptent ces nouveaux modes d'emploi.
Alors, on va, je vous remercie, vous restez avec nous, on va recevoir de nouveaux invités, et c'est intéressant, on n'a pas fait exprès, mais avec votre étude, il y a un dernier point qu'on va évoquer dans quelques minutes après avoir redémarré, c'est la discrimination à l'embauche qui persiste, et c'est ce que va nous confirmer, j'imagine, notre invité suivant. À tout de suite.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Le club, seconde partie, on est ravis de vous retrouver encore pendant une demi-heure. Sont toujours avec nous nos invités de la première demi-heure, à la fois Éric Persin, rebonjour.
Bonjour.
Éric Persin, qui est le patron, le DG et cofondateur de Kangourou Kids, le leader français, peut-être même européen d'ailleurs.
Non, c'est français.
Français de la garde d'enfants à domicile. 1600 postes en gros à pourvoir en 2020, dont 250 par l'alternance. Un mot sur l'alternance, on devait en redire un mot, Éric.
Oui, parce qu'on commence le recrutement très tôt. En fait, ceux qui sont en formation initiale, par exemple en bac pro, c'est dès le mois de février et mars qu'ils se préoccupent de ce qu'ils vont faire l'année suivante à la rentrée. Donc c'est maintenant qu'on veut les recruter.
Voilà, 250 postes à pourvoir en alternance un peu partout en France, on y reviendra avant la fin de l'émission. Est avec nous également Claude Tempé, vice-président du groupe Freelance, qui vient de nous parler de cette enquête très minutieuse avec l'IFOP sur le travail du freelance qui est en train de monter la croissance. Et comme ça, le freelance, on n'a plus honte d'être en freelance, alors que c'était le cas encore quelques années. Maintenant, c'est au contraire un atout. On y reviendra en partie, et notamment dès à présent, avec notre invité suivant, avec Gonzague Lefebvre. Bonjour.
Bonjour.
D'être avec nous, qui est cofondateur de Cleaver Connect, qui a mené une étude sur, justement, la discrimination à l'embauche. On va en parler, c'est un lien que l'on va faire tout de suite. Et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute, Oiseau. Bonjour Monsieur Oiseau.
Bonjour Alexandre.
Merci Jérôme Pascal, vous êtes fondateur de Oiseau, W-A-Z-O.
C'est
un rapport avec le mot oiseau en France. On laisse un peu de suspense, ne répondez pas. Vous êtes la start-up qui recrute, on va venir vers vous dans quelques minutes. Allez, c'est reparti dans la deuxième partie de cette émission avec la solution RH. Justement, on va parler de la discrimination.
BFM Business, le club Média RH. Solution RH.
Alors Gonzague Lefebvre, vous êtes cofondateur de Cleaver Connect, c'est bien ça ?
Cleaver Connect.
Cleaver, c'est pas Cleaver, Cleaver, c'est
tout
en anglais. Connect, ça veut dire quoi en français ?
Faire des connexions intelligentes, voilà, bon. On a les connexions les plus intelligentes possibles.
C'est quoi le métier de Cleaver Connect ?
Alors nous, on essaie...
Vous êtes fondé d'abord sur votre entreprise, disons.
Ouais, donc l'entreprise est née en 2016, on est aujourd'hui 150 collaborateurs.
Start-up, encore un peu.
Ouais, encore start-up, encore
150
start-up.
Personnes, à Paris.
Partout en France.
Mais le siège est à Paris.
Et en Europe, voilà.
D'accord.
Et en Europe. Notre ambition, c'est d'accompagner les recruteurs, les entreprises, sur l'ensemble des enjeux, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le processus de recrutement. Donc, comment trouver des candidats, comment valoriser sa marque employeur, comment évaluer rapidement, efficacement les candidats dans le processus. Donc, on fait tout ça avec différents outils, notamment un site emploi qui s'appelle MeteoJob.com,
d'accord,
une solution de recrutement en vidéo qui s'appelle VisioTalent et un algorithme de matching qui s'appelle HR-Match.
Vous êtes 150 dans la société ?
150, tout à fait.
Et aujourd'hui, vous affichez un chiffre d'affaires, j'imagine ?
Entre 17 millions et 17 millions et demi.
Vous avez bénéficié de levée de fonds pour créer votre boîte ou pas ?
Oui, tout à fait. On en a fait une l'année passée d'un peu moins de 6 millions d'euros.
Parfait. Très bien. Donc, vous êtes une société en croissance. Vous aussi, vous allez recruter, j'imagine.
42 personnes cette année.
Alors, c'est bon. Voilà. Au passage, on le dit, ce qu'on est là pour aider les entreprises qui recrutent. Donc, autant le faire, c'était pas prévu. Mais vous cherchez quel type de profil ?
Principalement des ingénieurs, développeurs informatiques.
D'accord.
Et des profils commerciaux avec une connaissance du logiciel.
Parfait. Alors, parlons de cette enquête. Je disais, il y a encore quelques minutes, à la fin de notre première séquence, avec notre ami Claude Tempé, que dans son enquête, il y avait encore une question, un camembert. On va peut-être le repasser, si c'est possible, avec vous, François-Xavier, en régie. La dernière image de l'enquête de nos amis de Freelance, c'était une question sur la discrimination à l'embauche. Et il semble que ça persiste, c'est ça ?
Toujours un peu, oui.
avec pour un candidat d'origine supposée maghrébine par rapport à un candidat au patronyme franco-français, pourcentage de chance en moins, je ne sais pas si l'image va arriver, tant pis, je le lis, d'obtenir une réponse 20% et d'être recontacté après une candidature spontanée 30%. C'est bien ça ? La voilà l'image.
Exactement.
Vous voulez la commenter ?
Oh bah c'est non, c'est difficile à commenter. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on comprend pas très très bien aujourd'hui en 2020. Même si quand même,
c'est Cleaver Connect. Hein, c'est l'info de Cleaver Connect. Ouais, allez-y.
Oui, nous sur nos métiers, notamment sur les métiers de l'informatique, on voit qu'il y a une telle demande que globalement ces discriminations ont plutôt tendance à disparaître parce que il y a de plus en plus de besoins et quelle que soit l'origine, finalement, on a besoin de la compétence et on se fiche de l'origine de la personne.
Alors, on va poser la question à notre invité. Donc votre étude, c'est ça ?
Alors nous n'avons pas la paternité de l'étude. Je commente l'étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'université
Est, Paris-Est Marne-la-Vallée, c'est ça ?
Exactement, mandatée par le gouvernement.
Paris-Est Créteil.
Et du coup, pour remettre un petit peu le cadre de l'étude qui est sortie là sur la première quinzaine de janvier, ils ont envoyé un peu plus de 17 000 candidatures dans le top 100 des entreprises françaises. Donc, on est plutôt sur des entreprises CAC 40 assimilées.
Oui. Je reprécise à chaque fois, parce que c'est intéressant, on l'oublie. Et je sais que mes confrères sont pas toujours d'accord avec moi, mais je rappelle que quand même l'économie française, c'est à hauteur de 92%, bien entendu, 92%. Des PME. Donc, quand on parle des grands comptes, c'est donc 8% du secteur économique français. Mais allez-y.
Tout à fait. Et donc, ils ont envoyé 17 000 candidatures dans ces 100 grandes entreprises. Oui. En proposant une approche dite par pair. Donc, systématiquement, la candidature...
P-A-I-R-E,
enfin une approche par pair. Donc systématiquement, la.
Je sais pas ce que c'est qu'une approche par pair.
Je vais vous l'expliquer.
Allez-y.
Voilà. Systématiquement, la candidature était envoyée deux fois dans chaque entreprise. Oui. Donc la candidature était similaire avec uniquement deux changements. Un changement sur le nom du candidat et sur son lieu de résidence, en imaginant que c'était deux facteurs qui pouvaient avoir un impact sur le succès à l'embauche. Et donc concrètement, bah, y a une candidature qui était envoyée avec un patronyme français, Hortense, Adrien.
Durand, Dupont, Maurice, Hortense.
Et de l'autre côté, la même candidature avec le même niveau d'expérience, d'études, avec un nom et un prénom à consonance nord-africaine, maghrébine.
Oui.
Et du coup,
Afrique du Nord.
La conclusion assez effrayante quand même de cette étude, c'est que factuellement, vous avez 20% de chances en moins d'avancer dans le processus de recrutement base de votre nom et dans des proportions un peu moins importantes du lieu où vous habitez.
D'accord.
Néanmoins...
Ça, c'est le constat. C'est le résultat, c'est des faits, voilà.
Exactement. Fact. Exactement, donc ce sont les faits, les chiffres. Maintenant, il est toujours intéressant de prendre, je pense, un petit peu de recul. Le premier, c'est que dans la disque, parce que en partant de ça, on peut se dire mince, la grande majorité de nos entreprises françaises discriminent à tour de bras.
Du CAC 40, hein.
Ou du CAC 40, exactement, de nos grandes
entreprises. Et 8% des entreprises que vous avez interrogées
discriminent. Je pense que déjà, on peut segmenter. Il y a la discrimination consciente et inconsciente. La discrimination consciente, c'est clairement, vous dites, je ne souhaite pas avoir une personne ayant telle couleur de peau ou telle... Voilà. La discrimination inconsciente, il faut savoir qu'on a tous, de par notre éducation, les écoles qu'on a fréquentées, les entreprises dans lesquelles on a travaillé, certains biais cognitifs. Mmh. Et donc, si vous avez eu une mauvaise expérience, par exemple, avec un stagiaire venant de telle école, sans le vouloir, mais un peu naturellement, vous allez dire, tiens, cette école... ne forme pas des profils adéquats pour mon entreprise. Donc, vous allez inconsciemment un petit peu discriminer, mais c'est ce que nous, on appelle de la discrimination un petit peu inconsciente. Tout ça pour relativiser, pas se dire l'ensemble de nos managers et recruteurs dans les grandes entreprises françaises pratiquent une discrimination à tour.
Alors, je suis en train de regarder l'étude, je vous la montre, hein, c'est un document très épais.
27 pages.
27 pages sur le contenu des tests. Il faut dire que les professions testées, c'est ce que je lis, l'envoi des candidatures en fonction des offres d'emploi, les professions testées par l'envoi de candidatures, je parle dans cette enquête, en réponse à des offres d'emploi, portent sur des métiers qui sont quand même du haut de gamme, hein. Développeur commercial, chargé de clientèle en banque assurance, chargé de clientèle développeur informatique, comptable, responsable administratif. C'est des jobs qui sont en entreprise assez demandés, quoi, quand même.
Tout à fait. Mais je trouve que l'étude a, et c'était un bon point, a fait l'effort de le faire sur différents types tout de même de métiers.
Mais parce que ce sont des professions en tension, c'est ce que je voulais dire.
Exactement.
Où il est difficile de recruter.
Et donc, du coup, normalement, comme il y a moins de candidatures, ça devrait faciliter l'accès à l'emploi pour l'ensemble des populations.
Alors, comment est-ce qu'il faut l'analyser? Est-ce qu'on peut y remédier? Comment y remédier? Quel est, si vous nous en parlez, vous, Gonzague, c'est que vous avez des propositions à faire.
Tout à fait. Alors, j'imagine qu'il n'y a jamais une seule réponse globale et facile. Il y a peut-être des réponses législatives. Certaines personnes prônent une réponse qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire globalement mettre un petit peu sur la place publique le nom de ces entreprises. Là, je laisse à chacun.
Oui, les dénoncer, quoi.
Les dénoncer.
La dénonciation. Voilà. Balance ton entreprise.
Exactement. J'allais faire le
balance parallèle. Ta discrimination.
Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne sais pas, parce qu'on sait qu'il y a aussi toujours, il faut avoir des éléments de contexte. Donc, est-ce que c'est la seule solution? Sûrement pas. Il y a une autre approche qui est la nôtre, c'est aussi l'approche technologique. La question, c'est de savoir comment la technologie et éventuellement les algorithmes pourraient apporter une partie de la réponse. Sûrement pas toute la réponse, mais je donne un exemple. Nous utilisons des algorithmes qui vont permettre de trier automatiquement.
Là, vous parlez de votre société. Hein.
Tout à fait.
Vous recrutez vous-même pour vous-même.
Non, on développe des logiciels qu'on va du coup commercialiser auprès d'entreprises qui recrutent. Et ces entreprises vont du coup utiliser un logiciel qui s'appelle HR Match, qui va automatiquement trier les candidatures, les CV, par rapport à une offre. Quels sont les avantages de la technologie par rapport à une approche humaine? 30% des CV ne sont pas lus.
Oui.
Avec un algorithme, on s'assure que l'ensemble des CV sont traités, ce qui est déjà un élément de...
Mais c'est important de le préciser.
C'est important de le préciser.
Beaucoup se plaignent de ne pas avoir de réponse.
Exactement.
D'ailleurs, beaucoup de start-up RH qui sont en train de travailler là-dessus. On l'a vu dans les trophées médias RH, start-up, qui essayent de faire en sorte d'apporter un service aux entreprises pour dire vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez pas la possibilité, ni j'en veux dire, les collaborateurs pour. On vous propose de répondre à toutes les propositions d'emploi qu'on a reçues à votre place.
Exactement, tout à fait. Donc ça va dans ce sens-là. Deuxième point, l'algorithme, évidemment, ne tient pas compte du nom et de la consonance du nom du candidat.
Oui.
L'algorithme ne tient pas compte de la mise en forme du CV qui va introduire un biais nécessairement chez l'humain quand il va le regarder. Et aussi, ne va pas tenir en compte de ce qu'on appelle les soft skills qui parfois, ou des hobbies par exemple, qui parfois peuvent aussi introduire certains biais. Je vous donne un exemple. Certains sports vont être assimilés à certaines catégories socio-professionnelles. Et donc, on va avoir
une
tendance.
Allez jusqu'au bout.
Si vous faites du hockey, par exemple, ou du tennis, on va assimiler ça à des catégories socio-professionnelles plus aisées que si vous faites du football, qui est, on le sait tous, un sport plus populaire.
Voilà. D'accord.
Et donc... La force de l'algorithme, c'est la capacité d'exclure certains biais, certains éléments de l'analyse pour la rendre la plus objective possible.
Alors, on va faire réagir notre ami Eric Persin. Je rappelle que Eric Persin, qui est notre invité témoin d'entreprise, Kangourou Kids, 1600 postes à pourvoir cette année. Eric Persin, c'est bien ça, j'ai pas fait d'erreur. Vous êtes le leader français de la garde d'enfants à domicile. Dans ces collaboratrices que vous recrutez, est-ce que vous vous retrouvez dans cette espèce de tableau de la discrimination en France sur l'âge et le lieu de résidence?
Oui, alors on y a été confronté indirectement parce qu'on a des clients, et j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, qui nous demandaient expressément, quand on leur demandait de décrire leurs besoins, ils nous disaient, ils utilisaient une expression
la nounou parfaite.
Pitoyable, ils voulaient une nounou bleu, blanc, rouge. Et donc j'ai eu des collaborateurs, des collaboratrices ou des franchisés qui m'appelaient pour me dire on me demande ça, qu'est-ce que je fais? Donc nous, notre posture, elle a toujours été commercialement dangereuse, mais claire. C'est-à-dire que nous, on ne tient pas compte de ce critère. Le critère, c'est la professionnalisation du salarié,
le diplôme,
la compétence, l'expertise. Évidemment, l'expression française, c'est important pour s'occuper d'enfants, parce qu'il y a un caractère éducatif, évident. Mais c'est tout. L'origine ethnique, la religion, ne fait pas partie des critères de recrutement. Alors, on a utilisé les services de votre société.
Excusez-moi, mais j'en profite. Pardon, je vais peut-être même être discriminant dans l'autre sens. Moi, j'ai discuté avant cette émission avec une nounou d'origine, je crois qu'elle est africaine, et qui disait qu'elle trouvait du boulot plus facilement en tant que nounou, en tant que garde d'enfants à domicile. Moi, je ne sais pas si elle passait par une société officielle ou pas auprès d'une famille, mais elle disait que cette famille et d'autres familles lui demandaient si elle pouvait les aider à trouver une nounou d'origine africaine comme elle. Elles étaient très recherchées. Est-ce qu'il n'y a pas, à l'inverse, justement dans ce domaine-là, l'idée que l'éducation, pas l'éducation, mais la nounou d'Afrique du Nord est plus... Pardon, hein, je suis en train de jeter pavé dans la mare, je vous laisse répondre.
Alors, nous, statistiquement...
Vous ne rentrez pas dans le jeu.
On le voit ni dans la sélection, ni dans les chiffres à la fin. On a des masses de recrutement énormes, hein, puisqu'en fait, vous disiez tout à l'heure qu'on recrute entre 1600 et 1700 candidats par an. Mais en réalité, pour faire ça, on reçoit 56 000 candidatures par an.
Ah oui, il y a une vraie sélection, c'est énorme.
Il y a une vraie sélection.
En n'utilisant pas le critère, justement, en ayant, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de courage, décliné tous ces critères discriminants.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même si on a des outils et qu'on utilise des fois des services de sociétés partenaires, on a engagé avec la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, une campagne de formation de tous nos recruteurs, nos gérants et recruteurs, de manière à ce qu'effectivement, il y ait une acculturation et une prise de conscience de la difficulté du problème.
En tout cas, Gonzague Lefebvre, bravo pour cette enquête, d'avoir récupéré tous ces éléments, encore une fois, auprès de ces chercheurs et professionnels.
Vous ne faites que la commenter. Hein,
je sais, vous ne faites que la commenter, ce n'est pas vous qui l'avez mené, mais nous apportez votre commentaire. Donc on voit bien que vous proposez des solutions. C'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier qui n'est pas réglé.
Vaste chantier, on le sent. Et évidemment, les algorithmes peuvent être une partie de la solution, mais les algorithmes ont aussi des défauts et peuvent avoir eux-mêmes des biais. C'est-à-dire que si vous entraînez vos algorithmes avec des données du passé, données elles-mêmes biaisées parce qu'en fait les recruteurs ont été discriminants, vos algorithmes ne vont faire que reproduire ces biais.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc il faut être humble aussi par rapport à ce que la technologie peut apporter. J'imagine beaucoup de choses, à condition qu'elles soient contrôlées, surveillées, utilisées avec bienveillance et intelligence.
Merci Gonzague, vous restez avec nous, on est presque à la fin de l'émission, vous savez qu'on termine toujours le Club Média RH avec un invité qui est le fondateur ou cofondateur ou patron d'une start-up. On dit c'est la start-up qui cartonne et qui recrute, une espèce de formule, c'est le coup de pouce aux jeunes pousses, c'est aussi notre bonne formule. Et voici, on va passer maintenant donc à la start-up qui recrute, voici Oiseau, une start-up qui s'appelle Oiseau.
BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute.
Bonjour Jérôme Pascal.
Bonjour Alexandre.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes Monsieur Oiseau, voilà, avec un W-A-Z-O, c'est le nom de votre start-up. C'est un rapport avec le mot oiseau, tout de suite, disons-le. Hein.
Alors on travaille dans le secteur des communications, des télécoms, et il nous a semblé naturel d'associer le nom de notre société au champ lexical des oiseaux. On peut penser aux oiseaux messagers, aux pigeons voyageurs...
Ah, c'est joli, c'est une bonne idée. Oiseau, W-A-Z-O. Alors, votre métier, c'est un peu complexe. Hein. Vous êtes éditeur de solutions de communication de nouvelle génération à destination des entreprises, virgule, fournisseur de services et opérateur télécom. C'est long, c'est compliqué.
C'est correct. Alors, je vais vous aider à décrypter...
C'est le digital qui oblige à avoir tout ça.
Je peux vous aider à décrypter un petit peu
voilà.
Tout cela.
Si on allait dans le concret un petit peu.
Nous, on est là pour dépoussiérer le marché des télécoms.
D'accord.
Qui est resté figé pendant trop longtemps. Avec l'extinction programmée du réseau de télécoms commuté, avec l'avènement de la voix sur IP, la voix, la vidéo, les messages deviennent des fichiers digitaux comme les autres.
D'accord.
Dès lors,
on peut
les programmer, on peut les router, les enregistrer, les passer à la moulinette de l'intelligence artificielle. Bref, on peut les programmer. Les télécoms deviennent programmables.
D'accord.
Et dans ce contexte, les entreprises souhaitent en tirer le profit pour éditer des solutions de communication qui répondent exactement à leurs besoins, que ce soit pour le collaboratif en interne ou pour améliorer l'expérience client avec leurs utilisateurs. Dans ce cadre, nous, on édite une plateforme de communication qui est programmable et qui permet d'éditer facilement des solutions de communication. C'est ça, Oiseau.
Voilà, alors c'est le lancement de Oiseau en France.
que vous êtes venu nous présenter, éditeur de solutions de communication de nouvelle génération. Ça s'appelle Open Telecom. C'est Oiseau lance la révolution de l'Open Telecom. On va entrer dans le vif du sujet de votre entreprise pour comprendre qui vous êtes. Date de très concret cette fois. Date de création, c'est la fiche d'identité qu'on a l'habitude de présenter. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors Oiseau, et l'oiseau a pris son envol.
Non, Oiseau.
Au départ, c'est pas une entreprise française, c'est ça?
Alors, le siège de la société est basé à Québec City.
Québec.
On est déjà une entreprise internationale.
On peut l'appeler Tabernacle, mais bon, d'accord, Oiseau.
La société a été créée en décembre 2016.
En France?
Au Canada.
Au Canada.
Et l'année dernière, en France.
D'accord.
Et on a une ambition forte pour avoir une empreinte forte sur le marché français. Et dans ce cadre-là, on veut développer nos activités et recruter.
Alors, 2016, création, on l'a vu rapidement au Québec, c'est ça? Mm-hmm. Au Canada. Vous, c'était l'an dernier, en 2019. Mm-hmm. C'est ça? Donc, vous êtes une petite... c'est une start-up, une vraie...
On a pris l'empreinte sur le marché à partir de la deuxième partie de l'année dernière.
Aujourd'hui, Oiseau France, l'oiseau en France, c'est combien de personnes?
Alors, on est 15 personnes en France qui sont à la fois des développeurs et puis une équipe commerciale. Et puis, d'accompagnement des clients, ce qu'on appelle le support ou le customer success.
Et vous êtes français vous-même ou
Je suis français, je suis basé à Paris pour le moment.
Très bien. Alors, votre ambition, c'est de recruter. Vous avez eu des fonds qui viennent du Canada, c'est des fonds propres, expliquez-nous.
Alors, on a eu recours à des business angels, qui est dans les premières phases de l'entreprise.
Toujours.
Et puis également, on a apporté des sous en tant que fondateur. On est toute une équipe de fondateurs, on est des repeat entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des expériences passées qui nous ont permis de financer... D'accord. Le développement de la société à ses débuts. Maintenant, on travaille sur une opération de levée de fonds en ce moment même. Donc, je profite de mon passage à l'émission. Si jamais il y a des investisseurs qui sont intéressés par cette belle opportunité massive, n'hésitez pas à prendre contact.
Alors, vous êtes aujourd'hui une quinzaine de personnes. Vous êtes installé à Paris et vous voulez recruter combien de personnes?
Alors, notre plan de recrutement prévoit d'embaucher 12 personnes sur le territoire national
en
2020.
Qui recherchez-vous?
Alors, pour partie, ce sont des développeurs, des front-end et back-end, et puis également des personnes pour accompagner les clients et des commerciaux.
D'accord. Et des hommes et des femmes expérimentés, plutôt, vous êtes ouverts aux jeunes aux jeunes diplômés, que vous allez former ou pas? C'est une question.
Alors, on est à la jointure de deux mondes, le monde des télécoms et le monde de l'IT. Ce qui fait que ça requiert pas mal d'expertise pour parvenir à assembler quelque chose de cohérent à partir de ces deux éléments-là. Donc, ça nécessite effectivement une expertise assez pointue. Maintenant, on a pu... onboarder un certain nombre d'employés depuis la création de la société. On a mis en place des processus qui permettent de mettre les gens au niveau. Mais on a plutôt des gens qui sont aguerris.
Vous êtes vraiment en construction, on le voit dans le défilé à l'image pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, mais il y a ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio. On voit bien qu'il y a à la fois des besoins de professionnels, j'ai envie de dire, expérimentés, côté technique, côté high-tech, mais également vous constituez l'entreprise, donc des forces commerciales, vous avez besoin d'une personne pour les RH. Enfin bref, les besoins sont assez larges au niveau des profils recherchés.
Absolument. Avec la prochaine levée de fonds, on va également renforcer la structuration de l'entreprise sur les aspects RH, finance, administration.
Alors, il y a la classique question qui arrive à un moment donné dans cette rubrique-là sur la start-up qui recrute. Avez-vous les moyens de vos ambitions pour embaucher? Avez-vous les sous pour embaucher tout ce monde-là?
Alors, c'est un sujet
la levée de fonds.
C'est un sujet qui préoccupe tout entrepreneur qui a de l'ambition. Il s'agit surtout dans le domaine de l'édition logicielle où on doit investir sur la création d'un asset technologique avant de pouvoir
innover,
le vendre.
Innover.
Voilà. Alors, il y a déjà une partie significative de cet investissement qui a été réalisé et maintenant on rentre dans une phase où on va chercher le marché, donc où on va aller chercher davantage de revenus et ce qui fait quelque chose qui est attractif pour des investisseurs. C'est pourquoi les discussions vont bon train en ce moment.
Et les gens que vous recherchez, vous leur proposez quel projet? Vous leur dites comment vous les attirez? Parce qu'on parlait de marché tendu de l'emploi. Là, vous êtes dans ce domaine-là, de l'IT, de tout ce qui touche au digital. On est dans du tendu total, n'est-ce pas? Je vois que vous faites oui de la tête, notre ami.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est que les entreprises qui ont parfois des difficultés à recruter passent par des indépendants pour suppléer à ces
gens.
Si vous avez besoin, n'hésitez pas.
Ah ben voilà. Alors, Claude Tempé vous propose de vous aider. Alors,
c'est
vous tend la main.
C'est une problématique à laquelle on commence à être confrontés. On a eu la chance de pouvoir puiser dans nos réseaux historiquement pour aller chercher les ressources jusqu'à maintenant. Mais les besoins deviennent tels qu'il nous faut aller au-delà de nos propres réseaux. Et effectivement, c'est la raison aussi de ma présence sur votre plateau aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de s'ouvrir et d'aller chercher...
Et recruter tous azimuts des professionnels, des experts.
Voilà. Alors pour,
des compétences, comme on dit.
Voilà. Pour répondre à votre question sur ce qu'on propose aux employés qui nous rejoignent.
Alors, il y a un collaborateur.
Exactement, les collaborateurs. Premier élément, on a une philosophie qui est open source. On a choisi un modèle de développement logiciel open source.
D'accord.
Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce qu'est l'open source et la prise que ça prend sur le marché. C'est une vraie tendance de fond. Et surtout, c'est... très attractif pour les développeurs.
Alors, premier point, deuxième point ?
Le deuxième point, c'est qu'on est une société internationale,
ouais. Ça, c'est
mais avec un petit côté francophone, on va dire. Et du coup, pour quelqu'un qui souhaite développer une ambition internationale, je pense qu'on a un excellent marchepied pour y aller progressivement.
Et vous avez un baby-foot, non ? Comme toutes les startups, non ?
On n'a pas souhaité sacrifier à cette habitude pour le moment.
Bon, je vous remercie en tout cas. L'appel est lancé pour vous, Jérôme Pascal, PDG de Oiseau. Ça s'écrit W-A-Z-O. Vous avez une adresse, un site, bien sûr.
Bien sûr, oiseau.io.
I-O.
Voilà, et pour la communauté open source, c'est oiseau-plateforme.org.
Très bien. Vous avez, vous aussi, une adresse mail. Une adresse, pas mail, une adresse
par définition.
Une adresse, bien sûr, pour vous. Claude Tempé, c'est freelance.com.
Exactement.
Je me tourne vers notre ami avec...
oui, vous aussi. Cleverconnect.com.
Cleverconnect.com. Enfin,
Eric Persin. Grande originalité.
Enfin, Eric Persin, merci. On peut aller sur votre site. On peut le citer. Le site, c'est le site emploi. C'est bien ça ?
kangourokids.fr.
emploi.kangourokids.fr. Voilà. Et puis, Club Média RH, MediaRH.com. Je vous souhaite une excellente journée. Bon week-end. On se retrouve le week-end prochain avec de nouvelles offres d'emploi et de nouveaux invités. Bon week-end. Salut.
BFM Business. Le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.